les journées de l'économie. GECO.
GECO, l'édition 2013.
Bonjour à tous. À l'occasion des journées de l'économie 2013, je suis avec Gabriel Zucman, chercheur à Berkeley, qui est passé par l'école d'économie de Paris et qui a reçu notamment en 2011 le prix FEM, qui est donc un prix qui récompense européen, qui récompense les trois meilleurs articles de jeunes économistes. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci.
On peut peut-être, pour commencer, faire le lien entre donc, vos domaines d'études, c'est-à-dire la répartition des patrimoines au niveau mondial et l'évasion fiscale, faire le lien avec le thème plus général des GECO 2013, c'est-à-dire la question de la confiance, puisque notamment avec les scandales d'évadés fiscaux en France qui ont été très médiatisés récemment, voilà, on peut se demander est-ce que c'est possible à l'heure actuelle de rétablir la confiance en ce qui concerne les problèmes fiscaux.
Oui, je pense que c'est possible, mais qu'il faut des mesures concrètes pour rétablir la confiance. On a un appareil statistique en particulier qui est très défaillant. Si on veut rétablir la confiance, il faut bien mesurer qui possède quoi. Ça, c'est un principe fondamental. Qui possède quelle fortune, quel revenu, en particulier pour pouvoir taxer justement, pour pouvoir taxer autant les gens riches et les gens moins riches, ou même plus les gens riches que les gens pauvres. Et aujourd'hui, on a des gros problèmes à faire ça. Pourquoi ? Parce que notre appareil statistique est défaillant. Donc, en particulier, il y a un énorme trou dans les statistiques mondiales qui correspond au fait qu'il y a une masse d'argent considérable qui est détenue dans les paradis fiscaux. Et d'après mes travaux, en l'occurrence, il y a 8% du patrimoine financier qui se trouve dans des paradis fiscaux en Suisse, à Singapour, à Hong Kong, etc. Et ça se traduit par un déséquilibre entre actifs et passifs financiers au niveau mondial. Vous vous rendez bien compte qu'au niveau mondial, normalement, tous les actifs financiers devraient correspondre à un passif financier. Bon, ben, c'est pas ce qu'on voit. Il y a des passifs qui n'ont aucun actif correspondant et des actifs qui manquent. Un peu comme si la planète Terre était possédée par Mars. Alors, évidemment, ça, cette problématique à plusieurs égards. C'est problématique si on veut réguler le capitalisme financier. Comment est-ce qu'on peut gérer une crise financière si, voilà, même les statistiques de base sont complètement polluées par les paradis fiscaux ? C'est problématique si on veut taxer équitablement, hein, parce que l'argent dans les paradis fiscaux, évidemment, il appartient à des gens fortunés, très fortunés, et en particulier d'après les chiffres que j'utilise sur les fortunes en Suisse, entre autres, les comptes en Suisse qui appartiennent aux ultra-riches, explosent, même si les comptes de gens un peu moins riches ont plutôt tendance à diminuer en raison des politiques qui ont été mises en œuvre récemment, et de la pression qui est mise sur la Suisse. Et tout ça, bon, bah, je pense que ça alimente une défiance légitime envers le système financier et le système fiscal. Et si il y a les ultra-riches, des personnes avec des dizaines de millions d'euros de patrimoine, ont des moyens simples de ne pas payer d'impôts. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance dans l'impôt ?
Oui, ça suscite finalement l'indignation.
Ça suscite une indignation légitime. Ça suscite un sentiment de révolte parce qu'au cœur de nos États, il y a un principe fondamental qui est le consentement à l'impôt. Voilà, c'est le consentement à l'impôt qui nous permet d'avoir une fiscalité progressive qui taxe les hauts revenus et les grandes fortunes à des taux qui sont ce qu'ils sont, 45% pour les plus hauts revenus, 1,5% pour les plus hautes fortunes. Et pourquoi est-ce qu'on a un système fiscal progressif ? Parce que on a confiance, l'impôt est légitime. Si l'impôt n'est pas légitime, si tout le monde pense que les très riches ne payent pas d'impôts, il n'y a plus personne qui doit payer d'impôts. Voilà. Et si plus personne ne veut payer d'impôts, il n'y a plus d'État social, il n'y a plus l'éducation pour tous, il n'y a plus la santé pour tous. Voilà. Il n'y a plus de modèle social européen. Le modèle social européen, il repose de façon fondamentale sur le consentement à l'impôt. Et il faut se battre pour le consentement à l'impôt. Se battre pour le consentement à l'impôt, ça veut dire créer des moyens de lutter contre l'opacité financière. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Par exemple, créer un registre mondial des titres financiers, un cadastre financier du monde. C'est une proposition que je fais dans mon livre qui vient de sortir, La richesse cachée des nations, aux éditions du Seuil. Je propose de créer un cadastre financier du monde, de même que la France a créé en 1791 le cadastre immobilier pour recenser les propriétés immobilières.
Mais finalement, ça, est-ce que c'est vraiment possible? Parce que justement, par exemple, la Suisse, si on prend l'exemple de la Suisse, elle était un peu dans le collimateur avec la crise actuelle de tous ces pays qui veulent lutter contre l'évasion fiscale. Mais concrètement, c'est possible de prendre ces mesures?
Oui, c'est possible. Comment on fait pour forcer les paradis fiscaux à coopérer? Évidemment, les paradis fiscaux ont un intérêt très fort au statu quo, à ce que rien ne change.
Oui,
à ce que le secret bancaire survive, à ce que la fraude continue. Évidemment, ils ont un intérêt très fort. Il y a une façon simple de les forcer à coopérer, c'est de les menacer de sanctions douanières, de tarifs douaniers. Par exemple, concrètement, la France, l'Allemagne, l'Italie vont voir les autorités suisses et leur disent, si vous refusez la transparence bancaire, si vous refusez de coopérer, si vous refusez de participer au cadastre financier du monde, on taxe à 30% vos exportations. Et ça, d'après mes calculs, une taxe de 30% sur les exportations, ça permettrait de récupérer à ces trois pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, à peu près autant que ce que lui coûte le secret bancaire, d'une part, et d'autre part, ça coûterait à la Suisse à peu près autant que ce que lui rapporte le secret bancaire. Donc, parce que ça nous rapporterait autant que ce que ça nous coûte, c'est légitime. On est en droit de mettre ce genre de tarif douanier pour compenser le vol, la fraude que permet le secret bancaire. Et parce que ça coûte autant à la Suisse que ce que lui rapporte le secret bancaire, bah ça va convaincre la Suisse, normalement, de coopérer, effectivement, d'abandonner son secret bancaire, parce que l'immense majorité de la population suisse, elle ne tire aucun bénéfice du secret bancaire. En revanche, elle serait évidemment pénalisée par les droits de douane. Et je pense que, voilà, elle voterait. C'est un État démocratique, que je respecte beaucoup, que j'admire beaucoup, mais elle voterait, l'immense majorité de la population, pour la fin du secret bancaire, pour la coopération pleine et entière, contre le statu quo. Et là, on avancerait concrètement.
D'accord. Peut-être, sinon, pour revenir à un des derniers articles que vous avez publiés sur justement cette richesse manquante des nations, vous mentionnez le fait que cette richesse qui est donc manquante à cause de l'évasion fiscale, si on la prend en compte, ça pourrait changer beaucoup de choses, notamment au niveau des dettes des États, et en particulier la zone euro se retrouverait non plus débitrice nette, mais créditrice nette, si on prenait en compte tout cet argent. Ça changerait beaucoup de choses pour les politiques, peut-être.
Oui, bah, je pense que effectivement, aujourd'hui, tout le monde a l'air persuadé que l'Europe et les pays riches en général sont criblés de dettes et que les créances, au contraire, sont dans les pays du Sud, qui sont vertueux, qui ont plein d'excédents, etc. C'est une croyance qui est fausse. Pour de nombreuses raisons, mais une des raisons, c'est que les statistiques officielles sont erronées parce qu'on oublie de compter toutes ces richesses que les résidents des pays riches, et en particulier d'Europe, possèdent dans les paradis fiscaux. D'une façon générale, en Europe, c'est vrai que les dettes publiques sont relativement élevées, hein, 94% du PIB en France, mais les richesses privées, elles sont bien supérieures aux dettes publiques. Et ces richesses, elles sont taxables. Elles sont en France, elles sont pour partie dans les paradis fiscaux, où on pense qu'elles ne sont pas taxables, mais en fait, s'il y a une détermination politique, s'il y a un cadastre financier mondial, s'il y a un échange automatique d'informations bancaires, les richesses des paradis fiscaux, on va pouvoir les taxer aussi. Les dettes publiques sont petites par rapport aux richesses privées, onshore et offshore, dans les paradis fiscaux, et toutes ces richesses privées, on peut les taxer. Et donc tous nos problèmes, on peut les résoudre avec un minimum, voilà, de croire que l'Europe est vouée à un déclin irrémédiable et que maintenant c'est nous les pauvres et c'est les Indiens ou les Brésiliens ou les Chinois qui sont riches et qui prêtent de l'argent, c'est une vision qui est très répandue mais qui est très fausse.
D'accord, très bien. Peut-être je peux vous poser juste une dernière question en ce qui concerne votre parcours, parce qu'en fait vous étiez, en tant que jeune économiste français, vous êtes parti à Berkeley cette année, et l'année prochaine je crois que vous allez probablement aller à la LSI. Du coup je me demandais en fait ce que vous pourriez nous dire là-dessus, le fait que voilà, en tant que jeune chercheur français, ce soit un passage, une étape nécessaire de partir outre-Atlantique.
Non, mais c'est bien si vous avez l'occasion pendant vos études de partir aux États-Unis, c'est une bonne chose. Moi, j'ai effectivement été recruté comme professeur à la London School of Economics. Et avant ça, je fais une année de post-doctorat à Berkeley. C'est fantastique. Les États-Unis, les universités britanniques aussi. Mais il y a d'excellentes universités en France. Et moi, je suis très attaché à la France. Donc, je ne sais pas combien de temps je vais rester au Royaume-Uni. On verra. Dans tous les cas, c'est une bonne idée, effectivement, de partir pendant vos études ou après. Une année, deux années, trois ans, cinq ans, c'est important. Hein. Les universités françaises ne sont pas encore assez ouvertes sur l'étranger, sur l'international. Donc prenez des initiatives, partez autant que vous pouvez. C'est extrêmement enrichissant et c'est formateur et c'est fondamental.
D'accord, très bien. Merci beaucoup.
Merci.